Chers amis, bonjour. Bonne fête des mamans. Alors, aujourd'hui, on parle de la fête des mères. Eliel, elle va nous lire un petit texte avant de commencer. Hein, Eliel ? Tu viens de le dire là ? Ou tu veux rester là ? Comme tu veux.
Toi, la femme, l'église, la maman. Difficile de renouveler avec cette transition. Tu joues à la combat continuellement pour ta personne, tu es sans.
Merci, Eliel. Je discutais avec une sœur qui habite à Nice et on discutait sur la loi travail, etc. Et on est arrivé à parler de la fête des mères. Et je lui ai dit, tu sais, ma mère, elle a commencé à travailler, elle avait 14 ans. Il fallait passer par le prêtre, donc elle était allée voir le prêtre. Elle dit toujours le père Thérobe à Marseille. Et elle est allée le voir et puis il lui a dit, écoute, ma petite revient dans une semaine, on en reparlera. En fait, il essayait de prolonger le temps, et puis elle est allée deux, trois fois jusqu'au jour. Il a trouvé une place dans une usine à Saint-Frère, à Marseille, où elle faisait des bâches. Ma mère a travaillé jusqu'à sa retraite. Elle faisait des ménages, elle travaillait elle fabriquait des bâches, vous savez, la couture, quoi, à l'usine. Jusqu'au jour où elle est rentrée à l'école d'aide-soignante. Mais d'abord, elle travaillait en tant qu'ASH, donc le ménage à l'hôpital. Et elle a commencé son travail au Grand Brûlé à Marseille. Quand j'y allais la voir, elle me fermait les yeux parce qu'il y avait des choses qu'il fallait pas voir, quoi. C'était vraiment un service difficile. Et là, elle est restée pendant des années jusqu'à ce qu'elle passe de manière interne son diplôme d'aide-soignante. Et donc, elle a continué à travailler au Grand Brûlé. Et puis après, elle est allée travailler en maternité. Elle a travaillé beaucoup la nuit pour être disponible le jour, en fait. Et la nuit, vous savez qu'en maternité, c'est pas des endroits les plus calmes. Et du coup, elle a travaillé là, et puis elle a travaillé pendant les dernières années, elle était à l'hôpital Nord à Marseille, dans les quartiers Nord, et Marie-Ève est née là-bas. Et c'était marrant parce que dans la couveuse, la seule blanche, c'était elle. On pouvait pas se tromper de bébé. C'est pour ça qu'elle a un caractère un peu au niveau marseillais. Voilà. Aujourd'hui, en fait, là, on aurait tous à raconter sur nos mères. Hein. On pourrait beaucoup en dire. On a beaucoup de souvenirs aussi pour ceux qui les ont perdus, etc. Et la Bible nous parle des mères. Déjà, au départ, dans Exode, il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ça, c'est dans l'Exode. Un chapitre plus loin, il est dit « Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. » Dans le Lévitique, chapitre 19, il est dit « Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » C'est marrant qui parle d'abord du père et de la mère, et puis après du sabbat. Hein, c'est intéressant. Il aurait pu dire, vous observez mon sabbat, et puis après vous respecterez, non. Il commence par les parents. Dans les Proverbes, au chapitre 1, versets 8 et 9, il est dit, « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Dans le Proverbe, chapitre 20, verset 20, il est dit « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Dans le Proverbe 23, il est dit « Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Dans le Proverbe, chapitre 28, il est dit « Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « Ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. » Dans le Proverbe 30, il est dit « Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. » La question d'Émile Zola, « Est-ce que j'ai quelque chose à moi, maman ? Est-ce que j'ai quelque chose à moi qui ne soit pas à vous ?» Vous savez, à l'époque où Walt Disney n'était pas encore dans son château, n'était pas très connu, En 1941, il a sorti un film, je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui s'appelle Dumbo. Vous vous rappelez de Dumbo ? Et en fait, c'est une époque où seules les femmes s'occupaient de leurs enfants. Les populations étaient noires, étaient encore des esclaves. Hein. À cette époque-là, c'est terrible. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, etc. Elles n'étaient pas vraiment écoutées. Et Walt Disney va sortir ce film. Dumbo, avec ses grandes oreilles. Tout le monde rit de lui, tout le monde se moque de lui. Sauf sa mère. Sauf sa mère. Mais il y a aussi cette petite souris, Timothy, qui va aider Dumbo à devenir une star. Ce qui sous-entend que votre seul ami est parfois le seul qui est votre impresario. Et donc ce Dumbo-là, ce Timothée, va faire découvrir son talent à Dumbo, voler dans les airs avec ses grandes oreilles. En fait, il y a une petite morale, c'est que votre plus grand défaut peut devenir votre plus grande qualité. C'est un peu le travail de la mère, ça aussi. Hein. C'est le reflet d'une époque également, lorsque la cigogne qui porte Dumbo arrive dans la cage des éléphants. Il n'y a toujours aucun mal à l'horizon, hein. Il n'y en a pas dans le film. Elle demande, qui attend un heureux événement ? Réponse d'une des protagonistes, pas moi, je ne suis que fiancée. Vous voyez, à cette époque, les choses étaient différentes d'aujourd'hui. Pas moi, je ne suis que fiancée. Donc, sous-entendu, ce n'est pas possible que je puisse avoir un enfant. La cigogne, elle ne veut pas m'apporter à moi un bébé. C'est étonnant. Plus tard, lorsque la maman de Dumbo se retrouve enfermée et que Dumbo va lui rendre visite, elle le berce de sa trompe en chantant « Mon bébé si joli, maman veille mon petit, ne crains rien, sèche tes pleurs, viens sur mon cœur mon tout petit. Tu auras bien le temps, car certains sont méchants, de connaître les soucis et les chagrins durant ta vie. Tu es mon trésor, c'est toi seul que j'adore, toi la raison de ma vie. Il est joli, mon tout petit, mon tout petit. » C'est un peu aussi ce qu'une mère a. Elle n'a pas envie que ses enfants découvrent tout et tout de suite, et la méchanceté du monde dans lequel nous vivons. Mais pourtant, nos enfants, elle voit en tout cas la maman, ses enfants, avec revenir de l'école ou être déçus de ses camarades, etc. On aimerait bien retarder l'échéance, que nos enfants se rendent compte le plus tard possible de ce qu'il y a de mal dans ce monde. Mais malheureusement, avec la communication, avec tous les moyens que nous avons aujourd'hui, les choses arrivent plus vite à nos enfants qu'ils nous arrivent à nous. Alors, l'ambiance en image de fond, des mamans animaux, toujours pas de papa, des mamans qui font des câlins à leur bébé. Et le message est très clair, hein, de Walt Disney, c'est une maman ne vivra que pour ses enfants. Dans quelques semaines, on parlera des papas. Que dit la Bible sur les mères chrétiennes ? Bien, la Bible dit qu'être mère, c'est un rôle important que Dieu choisit de donner à beaucoup de femmes. Il est dit aux mères d'aimer leurs enfants dans Tite, chapitre 2, 4 à 5, en ces termes. Il parle aux femmes âgées, dit que les femmes âgées, etc., elles doivent enseigner aux plus jeunes à aimer leur mari. Dit aux femmes âgées de transmettre leur expérience aux plus jeunes. C'est quelque chose qu'on devrait réfléchir, peut-être, dans le cadre d'une église locale. Réfléchir comment les femmes les plus âgées, celles qui ont de l'expérience, peuvent transmettre aussi ce qu'elles ont acquis, ce qu'elles ont appris parfois dans la douleur, dans les larmes, dans la souffrance, dans les difficultés. Sont passés déjà par des épreuves. Je pense que chaque femme, ici, mère ou pas, a déjà subi des épreuves qu'elle peut partager aussi avec d'autres pour les encourager. L'Église, c'est ça aussi. L'Église, c'est ça. Alors, dit que les femmes âgées, etc., d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est étonnant parce qu'on se dit, mais ça devrait être inné. Je ne crois pas que ce soit inné. Tout dépend de l'éducation qu'on a reçue. La façon qu'on a d'aimer nos enfants dépend aussi de la façon dont nous avons été aimés. On apprend par d'autres qui ont appris, par d'autres qui ont appris. Et parfois, ça fait du bien de discuter ensemble, de parler de ces choses-là, sans jugement, de pouvoir se dire, mais voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette façon-là que j'ai, de cette manière de fonctionner dans l'éducation de mes enfants, etc. Et les mamans devraient être aussi dans ce contexte-là, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir aider les autres à avancer, à acquérir de nouvelles compétences, on va dire. Oh, c'est pas inné, c'est inné d'aimer ses enfants. Mais la manière de faire, ben, ça dépend aussi beaucoup de notre éducation. Dans ce texte, apparaît un mot grec qui se dit philo technos. Ce mot représente un type spécial d'amour-mère. L'idée présente dans ce mot est celui de se soucier de nos enfants, de les élever, de les embrasser tendrement, de répondre à leurs besoins, de les recevoir comme si c'était des cadeaux que Dieu nous fait. Dans Ésaïe, chapitre 49, verset 15, la Bible dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté ?» C'est tout le drame de notre société. Ces femmes qui décident à un moment donné de leur vie de se débarrasser de leur enfant, avant ou après la naissance, mais elles en sont marquées à vie. Dire que c'est un souci de confort que de laisser les gens faire partir leurs enfants, pas encore peut-être arrivé à maturité en elles, mais un souci de confort, il n'y a rien de confortable là-dedans. C'est confortable sur un premier temps. Mais combien de femmes sont marquées à vie ? À vie. Mais ça, on préfère pas en parler. La Bible en parle néanmoins. Alors, quand est-ce que la maternité commence-t-elle ? Ben, les enfants sont un don de Dieu, dit le psalmiste. Et il dit, voici que des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Dans la Bible, l'amour maternel est souligné comme une grande responsabilité. Chez une mère équilibrée, on va dire, mais on est tous, pas que les mamans et les papas, on est tous plus ou moins équilibrés. Alors c'est quelque chose d'inné, comme je disais tout à l'heure. Toutes les femmes que le Seigneur choisit aussi dans la Bible de bénir par la maternité doivent prendre leurs responsabilités sérieusement. Les mères ont un rôle unique et crucial à jouer dans la vie de leurs enfants. La maternité ne devrait pas être une corvée ou un travail déplaisant, même si c'est extrêmement difficile parfois. Vous savez, c'est pas mon style de faire de la politique. Mais quand on parle d'augmenter le temps de travail, qui vont être les premières personnes à subir ? Qui ? C'est les femmes. C'est les femmes. Et au jour d'aujourd'hui, même si on dit qu'on a des vacances et qu'à une époque il n'y en avait pas, mais il y avait quand même autre chose, c'est que nous aujourd'hui, ben, normalement on devrait avoir des heures de sommeil, on devrait avoir 8 heures de sommeil pour se reposer, 8 heures pour passer avec nos enfants, pour les devoirs, pour être avec eux, pour les enseigner, pour les encourager, et 8 heures de boulot. Mais il y a les temps de transport. Il y a ceci, il y a cela. Et finalement, qui c'est qui en pâtit ? C'est nos enfants. Et je suis sûr que beaucoup de femmes aimeraient pouvoir s'occuper de leurs enfants. Mais la conjoncture actuelle ne leur permet pas de rester à la maison. Très peu de femmes ne travaillent pas. Peut-être dans cette région, il y a des femmes qui ont un mari qui peut subvenir aux besoins de toute la famille. Mais en France, je serais curieux de savoir le nombre, le pourcentage de femmes qui sont obligées d'aller bosser. Obligées. Mais c'est un manque à gagner pour leurs enfants. Et elles ne le font pas de gaieté de cœur. En tout cas, alors ça ne devrait pas être une corvée ou un travail déplaisant. Peut-être que ça devient une corvée dans la mesure où on est fatigué, où on est épuisé, où on n'a plus le temps, et là, ça devient difficile. Il y a un rôle à jouer dans la vie de ces enfants lorsqu'ils sont tout petits. c'est vrai, aussi à l'adolescence, dans leur vie de jeune adulte, même après. Vu comme ça se passe aujourd'hui, les enfants sont là pour longtemps. On ne peut pas dire qu'à 18 ans, ils ont un boulot et ils vont bosser. Et ils ont leur appartement, et ils ont leur... Non, on ne peut pas penser ça. Les enfants sont là pour longtemps. Donc la famille doit s'organiser aussi autour de ça, autour de cette nouvelle façon de fonctionner. Et le monde dans lequel on vit va nous pousser dans nos retranchements, va nous pousser vers la... Tout est misé sur le travail. Quand je pense, là, hier, j'entendais un gars qui disait, alors ça m'énerve de faire de la politique, mais un gars qui a commencé à travailler à 16 ans et qui disait à Emmanuel Macron, « Ouais, moi, vous voyez, j'ai commencé à travailler à 16 ans et je suis pas en costume, vous voyez ?» Et l'autre qui lui répond, « Mais pour se payer un costard, il faut travailler. » Oh, le mec, il a 30 balais, il a jamais travaillé de sa vie. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Enfin, ça c'est le monde dans lequel on vit, de la compétition, où elle l'a bien lu, hein, Eliane. Où la femme doit être au top, dans tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau du job, au niveau du regard sur elle, au niveau de son look, tout doit être au top. Autrement, elle est rapidement mise de côté. Alors que le rôle de mère change et évolue, l'amour, le soin, l'éducation et l'encouragement ne s'arrêtent jamais. Dès le quatrième chapitre de la Genèse, la famille, qui est la première institution établie par Dieu, hein, faut le dire, se trouve attaquée. Caïn, le premier-né, devient le meurtrier de son jeune frère, Abel. Et vers la fin du livre de la Genèse, la chronique de l'humanité naissante n'est plus qu'une liste de familles dysfonctionnelles. Cette première famille n'a pas seulement été déchirée par la rivalité fraternelle, mais presque toute sa descendance s'est enfoncée profondément dans le péché à une vitesse alarmante. La descendance de Caïn est présentée dans la deuxième partie de Genèse 4. On y découvre Lémec, apparemment le premier polygame de l'histoire. Après avoir tué quelqu'un, il s'en vante par un poème qu'il adresse à une de ses femmes. On continue de suivre la descendance d'Adam jusqu'à Genèse 5. C'est là qu'on rencontre pour la première fois Noé, patriarche de la seule famille que Dieu a préservée quand il a détruit le monde entier, mais parce que l'humanité ne recherchait finalement que le mal. Mais même la famille de Noé ne constitue pas un modèle de valeur familiale. Il faut dire ce qu'il y a. Dans Genèse 9, Noé, il va au bistrot, quoi. Il a un coup dans le pif. Et il est ivre mort. Un de ses fils, Cham, a découvert la nudité de son père et s'en est vanté auprès de ses frères. Noé a maudit Cham et toute sa progéniture. En fait, tous les problèmes familiaux, dont la femme, peut-être à la plus grande charge, parce que les hommes arrivent, je pense, à se détacher un petit peu de tout ça, arrivent à trouver un exutoire. Les femmes, c'est très difficile pour elles. Parce que tout est visées vers la famille, elles sont dévouées, on va dire à 100%, contrairement aux hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas dévoués, mais ils arrivent à trouver dans la société, dans la vie de tous les jours, des moyens de pouvoir se substituer à leurs devoirs. C'est plus simple pour eux, ça, en tout cas ça paraît plus simple pour eux que pour elles. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec ce que je dis, hein, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne. Je me connais aussi. En tout cas, il y a cette malédiction qui est rattachée au péché d'Adam. Dieu a considéré cet aspect de la malédiction quand il s'est adressé à Ève. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Vous savez, le mot « dominer » ici n'a rien à voir quand il est employé dans le cadre de la création. Quand il donne la création à l'homme et qu'il lui dit de dominer, il lui dit de dominer, mais dans un sens de protéger. Et là, quand il utilise ce mot-là, dominer, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi, là c'est le côté très négatif. très négatif. Ça revient à dire assujetti. Assujetti. Ça n'a rien à voir avec le mot employé dans la création. Je n'ai pas envie d'en rentrer dans le débat évangélique d'autorité, de soumission. Je crois qu'on fait tout ce comme on peut, avec les moyens qu'on a, n'est-ce pas ? On connaît ce qui est bon, on sait ce qui est juste, selon la parole de Dieu. Et puis après, il y a nous, notre éducation, ce que nous sommes, voilà, ce que nous vivons, notre expérience aussi, entre mari et femme, mais aussi par rapport à ce que nous avons vécu et notre expérience avec Dieu. Adam et Ève ont péché, ils étaient dans le jardin d'Éden. Proverbe 31, « Qui trouvera une femme de valeur ? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question suivante. Pourquoi, quand les enfants sont souffrants, est-ce qu'ils préfèrent dire « maman » au lieu de « papa » ? C'est une bonne question. Hein ? Quand ils sont malades et tout, ils appellent « maman ». Hein ? C'est étonnant, hein ? Alors la définition de la femme, d'une femme de valeur, on l'a dans le Proverbe 31, je ne vais pas vous le lire tout entier, hein, mais il y a un écrivain qui s'appelle John Ross qui a écrit ceci. Il dit, je cite, « Quand nous pensons à une femme de valeur, nous pensons souvent à une femme qui est bonne et pure, douce et droite, une épouse fidèle pour son mari, une bonne mère pour ses enfants. Tout cela peut être vrai. Cependant, le mot hébreu traduit ici donne une perspective légèrement différente. Le dictionnaire hébreu-français traduit ce mot hébreu par une force ou une armée, une armée, la richesse, la vertu, la vaillance et la force. En fait, cela est proche d'un mot signifiant fortification militaire. Donc la Bible décrit une femme qui est remplie de force et de puissance. Elle a des principes très élevés et ne craint pas de les faire valoir. Comme une armée, elle veut se battre pour ce qu'elle croit être juste et se dresser contre les puissances adverses. Elle se sent comme une fortification militaire pour protéger sa famille et son foyer, résistant à tout ce qui pourrait les menacer. C'est intéressant. C'est vrai que nous les hommes, on a tendance, quand il y a quelque chose qui ne va pas, à péter les plombs. On devient vite agressif. La femme, elle va rester beaucoup plus sereine, mais elle va être beaucoup plus efficace. Donc merci à toutes ces femmes de valeur, hein, à nos mères, à nos épouses, nos filles que Dieu nous a données, elles sont tellement précieuses. On a quelques mamans dans la Bible. Hein. On a Sarah, stérile, deviendra maman de la nation juive. C'est la première histoire que la Bible relate d'une conception miraculeuse. Hein, parce que Jochébède, mère d'Aaron, Moïse et Myriam, son nom est mentionné dans la Bible pour parler du courage et de la foi qu'elle a eu pour sauver son fils Moïse, d'une mort certaine. Elle a pas abandonné, mais elle a abandonné à Dieu. Elle l'a posé, elle a vu que c'était pour sa vie. Quel courage, hein ! Eunice et Loïs, mère et grand-mère de Timothée, aimée par Paul comme un fils. Timothée avait reçu cette foi sincère en héritage, transmis par les femmes de sa famille. C'est les femmes de sa famille qui lui ont transmis la foi. On dit souvent que derrière tout grand homme de Dieu, il y a une mère à genoux, peut-être. Il dit « Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, cette foi. J'en suis pleinement convaincu. » Paul à Timothée. Rebecca, mère d'Ésaü et Jacob. Elle a démontré du favoritisme entre ses deux fils. Et comme Ève, finalement, elle a été aussi à l'origine de cette guerre qui s'est installée entre eux. Parce que le favoritisme, ça crée quoi ? Ça crée la compétition. Ça crée la dispute. Quand il y en a un qui se sent favorisé par rapport à l'autre. Et puis il y a Marie, la mère de Jésus, qui était une femme décrite par Dieu comme ayant reçu une faveur imméritée, une faveur immense, beaucoup de grâce, ça veut dire en grec. Hein. Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus de déclarer dans son amour, et le don de sa vie pour l'humanité, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Quand les gens crient à Marie, heureux, heureux à Jésus, heureux le sein qui t'a porté, ta mère, elle est fière de toi, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et je lui dis, ah, attendez, on va replacer les choses là où elles sont réellement. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie nous donne elle-même l'exemple en adressant son adoration et sa louange à Dieu seul. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Luc, chapitre 1er. Marie était là au pied de la croix. Au pied de la croix. Au moment où son fils est crucifié. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Au pied de la croix, il n'y a que des femmes. Il n'y a que des femmes, à part Jean. À part Jean. Les autres disciples, ils sont où ? Volatilisés. Les plus costauds, les plus durs, les plus grandes gueules, ceux-là qui est comme Pierre, mais t'inquiète pas, si t'arrive quoi que ce soit, je serai là, tu parles. Ils sont tous barrés. Le seul qui reste, c'est Jean, le disciple que Jésus aimait. Et il lui confie sa mère. C'est beau quand même, c'est magnifique. C'est fabuleux. Et puis Marie, on finit par ça, était avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Marie a rempli jusqu'au bout son rôle de mère. Je pense que chaque maman ici a rempli jusqu'au bout son rôle de mère, tant bien que mal, parfois avec peine et difficulté, mais elle est allée jusqu'au bout. Bonne fête des mamans aujourd'hui, je vais prier. Seigneur, merci de nous rappeler par ce jour, qui est peut-être une fête païenne, on va dire, mais Seigneur, ça nous permet de nous rappeler combien les mamans sont importantes à tes yeux et combien tu... Oui Seigneur, tu nous as montré des exemples dans ta parole de femmes qui ont été des mères admirables, formidables. Quelques-unes, c'est vrai, ont commis des erreurs comme chacun, comme chacune. Seigneur, merci pour l'honneur que tu portes aux mamans. Merci pour l'honneur que tu as porté à Marie pour qu'elle puisse porter le Christ en elle. Nous sommes émerveillés par l'histoire du salut, l'histoire de l'humanité. Seigneur, on voudrait simplement t'adresser nos prières ce matin pour que tu bénisses les mères, nos mères, pour que tu bénisses aussi notre société, Seigneur, que tu permettes aussi à ceux qui dirigent, à ceux qui prennent des décisions, à ceux qui font passer des lois, qu'ils puissent se poser des vraies questions sur la vie des gens. Seigneur, donne-leur cette possibilité de pouvoir regarder ce que les peuples vivent au niveau familial. Ce que les mamans aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, subissent. Dans quelle mesure les enfants subissent aussi. Seigneur, nous te remettons toutes ces décisions, tous ces choix de vie, toutes ces lois. Seigneur, c'est vrai que nous devons rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais Seigneur, tu nous demandes aussi de prier pour les autorités. Et nous voulons ce matin simplement t'adresser nos prières. pour que les autorités puissent prendre en considération la vie des familles qui composent notre société. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions ce matin. Amen.